Good Morning Business, French Tech.
Elon Musk croit au data center dans l'espace. On va en parler avec notre invité Eric Lhomme. Vous êtes directeur général et cofondateur d'Alatir. Vous avez créé une alternative au data center orbitaux grâce à un système de tuiles porteuses de puces IA greffées sur des panneaux solaires. C'est ce que je lis, mais vous allez nous expliquer concrètement à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Les data centers dans l'espace, vous y croyez ou vous n'y croyez pas?
Ah, on y croit en 100%. Et d'abord, bonjour et merci de me recevoir. Ravi d'être avec vous. Donc, le projet d'Alatir peut paraître effectivement un peu fou, mais aujourd'hui, c'est plus du tout de la science-fiction. Nous développons des data centers qui seront assemblés de plusieurs mégawatts, qui seront assemblés directement en orbite par des robots. Voilà. Donc, ce seront les plus grandes infrastructures jamais déployées par et assemblées par l'homme en orbite. Imaginez 250 mètres de long, par 50 mètres de large, 20 fois la puissance électrique de la Station Spatiale Internationale. Donc comment ça marche? C'est des briques de 7 mètres, ou des tuiles plutôt, de 7 mètres de diamètre, extrêmement fines, qui sont déployées, empilées dans l'espace et assemblées directement en orbite par nos robots comme un immense Lego spatial. Et l'enjeu de ces data centers orbitaux, c'est de répondre à l'explosion des besoins de l'IA.
Mais vos tuiles, ce sont les data centers.
Oui, c'est-à-dire.
C'est les data centers
un data center, quand on le divise en petits blocs, ce sont des panneaux solaires, ce sont des briques serveurs et ce sont des radiateurs. Voilà, en gros.
D'accord.
Donc, on met ça en tuiles qui font toutes le même format, qui sont déployées en orbite et nos robots assemblent ça comme un Lego.
Mais alors vous dites ça de manière très très simple.
Et c'est très simple.
Ça a l'air vraiment d'une simplicité absolue. Vraiment,
et c'est pour demain.
Et on a des robots, ils mettent des Lego dans l'espace.
Tout ça dans l'espace.
On voyait les images pour ceux qui nous regardent à la télé. Enfin, c'est Star Wars, c'est un truc vraiment de dingue. Mais je veux dire, technologiquement, on est vraiment à maturité sur ce genre de projet, parce que quand on voit même Station Spatiale Internationale, même les opérations aujourd'hui, ce qu'on appelle de docking, c'est assez simple, ça reste encore compliqué. Enfin, c'est pas si simple que ça. Vous nous dites, on va avoir des bras robotiques et ils vont pouvoir assembler carrément des data centers dans l'espace. On est capable de faire ça aujourd'hui?
Oui, non. La technologie est mature, ça n'a jamais été fait, mais toutes les technologies existent en robotique. Des serveurs dans l'espace, etc. Non, il n'y a pas de rupture technologique, si ce n'est effectivement dans la façon de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs, cette façon de le faire est tout à fait différente du chemin suivi par les Américains aujourd'hui. Donc les Américains, les Chinois ont complètement compris l'importance stratégique, investissent massivement là-dessus, mais le font d'une façon, on a décidé de le faire d'une façon très différente des Américains.
Parce qu'il faut réexpliquer peut-être l'avantage des data centers orbitaux par rapport à un data center qui est collé à une centrale nucléaire, je sais pas où, en France ou en Scandinavie. C'est quoi les gros avantages et pourquoi est-ce qu'on, tout le monde, à commencer par Elon Musk, mise là-dessus?
Encore une fois, c'est pour répondre aux défis de l'explosion des besoins de l'IA. Donc les défis sont de trois ordres: énergétique, sécurité et souveraineté, souveraineté numérique. Donc énergétique, dans l'espace, on bénéficie d'une énergie solaire permanente et quasiment illimitée, sans créer de contraintes ou de tensions sur les réseaux électriques terrestres, le foncier, la consommation d'eau. Donc voilà, ça c'est un point très très important et qui sous-tend tout l'ensemble du projet. Ensuite, sécurité, on a vu que les data centers étaient devenus des cibles. Des infrastructures stratégiques et des cibles, c'est ce qu'on a vu au Moyen-Orient récemment. Et enfin, souveraineté, avec des data centers orbitaux, on offre la possibilité d'accéder à un data center souverain depuis n'importe quel point du globe.
Ouais.
Voilà. Donc, et avec tout ça, ces data centers orbitaux auront effectivement des applications, des usages extrêmement concrets.
Alors, concret, et demain, parce que vous visez donc 2028 pour démontrer la faisabilité, 2030 pour atteindre 1 mégawatt de puissance dans l'espace, vous construisez aussi les robots qui construisent vos data centers, c'est-à-dire que tout ça va ensemble?
Oui, alors 2030 même pour plusieurs mégawatts qui seront déployés avec un seul lancement, lanceur super lourd. On pourra déployer plusieurs mégawatts d'un seul coup.
Plusieurs mégawatts, ça reste petit par rapport aux besoins globaux. On est d'accord. On parle en gigawatts sur les gros data centers maintenant.
Mais c'est très très loin de aujourd'hui.
De ce qu'on fait aujourd'hui, je suis d'accord.
Et aujourd'hui déployé en orbite et plusieurs mégawatts, ça permet quand même aujourd'hui, c'est la densité de puissance dont on a besoin justement. C'est pour ça que nous on le fait comme ça, qui permet vraiment de faire tourner des modèles de calcul lourds, parallélisés, etc. Et donc l'avantage justement, c'est qu'on a cette densité de puissance de plusieurs mégawatts, contrairement à des constellations satellites qui vont avoir quelques dizaines de kilowatts ou peut-être 100 kilowatts, annonce Elon Musk, par satellite. Donc ça reste des nœuds de calcul distribué.
Et il servirait à quoi, alors, du coup, ces data centers orbitaux? Ce serait pour faire de l'entraînement de modèles, pour faire de l'inférence? Donc, quand on tape un prompt aujourd'hui, ça pourrait passer par l'espace? Enfin, ça servira à quoi, concrètement?
Alors, nous, on aura vraiment une architecture qui sera comparable et des capacités comparables aux data centers sur Terre, justement. Donc, tout ce qu'on peut faire sur Terre et tout ce qu'on fait sur les data centers sur Terre, on pourra le faire en orbite. La question, c'est plutôt pour quels usages et pour quel type d'utilisateur? Donc, ça va de la défense à la banque, aux véhicules autonomes. L'idée, c'est vraiment que, en n'importe quel point du globe, on puisse garantir un accès sécurisé, rapide et permanent à ces capacités de calcul et de données. Encore une fois, depuis n'importe quel point du globe, quelle que soit l'accessibilité, la disponibilité des infrastructures.
Mais pour des choses importantes, non? Plus que...
Mais défense, pour moi. Ouais. Les services critiques comme la finance, les transactions financières ou effectivement les véhicules autonomes qui auront besoin de cette garantie.
Et ça ne sera pas plus cher que de choisir un data center terrestre?
Alors, en 2030, ce sera plus cher.
Ouais.
Et en 2040, probablement pas, puisque les deux facteurs de coût essentiels pour les data centers orbitaux, c'est le coût de l'accès à l'espace. Donc, plus les cadences de lancement vont augmenter, plus les coûts vont continuer à baisser. Et pour les data centers terrestres, on peut imaginer effectivement qu'il y aura une évolution du coût, des coûts d'électricité, mais aussi des coûts environnementaux.
Et donc on dira, votre data center, vous le prenez sur Terre ou dans l'air, quoi. Enfin, ça sera un simple choix.
Ça, c'est certain, et même à un horizon beaucoup plus proche, dès le départ. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec les constellations de satellites de connectivité, hein, type Starlink, IrisCare en préparation, etc., c'est qu'effectivement, c'est complètement intégré entre les réseaux sol, les réseaux terrestres, et que pour la plupart des utilisateurs, c'est transparent.
Ouais. Donc il y a un vrai sujet quand même sur le modèle économique. Vous le disiez, vous misez quand même sur le fait que le prix du kilo envoyé dans l'espace va baisser dans les années qui viennent, ce qui est un très gros enjeu. Alors il y a un autre, je parle sous votre contrôle, mais dans l'espace, il y a aussi le problème des radiations. Visiblement, ça grille les puces assez rapidement, au bout de quelques années en tout cas. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir changer les data centers, changer les serveurs comme on change des cartouches d'imprimantes aujourd'hui? Et est-ce que c'est tenable aussi sur le long terme de devoir changer régulièrement finalement l'infrastructure?
Oui, absolument. Il faut être capable justement de gérer le remplacement des puces, notamment des GPU, des CPU, etc. Et c'est là aussi une des différences principales, la raison pour laquelle on a choisi ce modèle d'assembler ces data centers en orbite avec des robots, c'est parce que les robots qui assembleront les data centers effectueront également la maintenance ou la modernisation des data centers. Les constellations sont des constellations jetables. Après quelques années d'usage, les satellites sont désorbités, remplacés. Nous, ce que l'on essaye de faire, c'est pas du jetable, c'est une infrastructure pérenne en orbite. Les robots qui feront l'assemblage resteront en orbite et remplaceront les composants qui auront des durées de vie plus courtes sans avoir à jeter le reste de l'infrastructure. Ouais. C'est comme ça qu'on arrivera effectivement à avoir un modèle économique non seulement beaucoup plus de performance en termes de densité de puissance, mais aussi une durée, une longévité beaucoup plus importante et donc un modèle économique beaucoup plus intéressant sur le long terme.
Et aujourd'hui, vous avez des précommandes, vous êtes financé avec des levées de fonds, vous en êtes où?
Alors, justement, on lance une levée de fonds la semaine prochaine. Donc,
ça tombe bien que soyez là, allez-y.
Aujourd'hui. On lance une levée de fonds la semaine prochaine et on bénéficie en France et en Europe, on a la chance de bénéficier du soutien de BPI France, de l'Agence spatiale française, le CNES, de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, de la Commission européenne qui est très active et attentive sur ces sujets, la DGDFI. Et évidemment, en plus, on a besoin du soutien des fonds d'investissement.
Vous cherchez combien?
On verra, on vous dira après la levée.
Vous cherchez 10 millions, 20 millions, 100 millions.
Alors là, notre enjeu aujourd'hui, c'est de lever de l'argent pour accélérer effectivement la démonstration robotique d'assemblage du data center au sol en 2027 et aussi de préparer la démonstration en orbite en 2028. Il faut booker les vols à l'avance, etc. Donc c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Et l'étape d'après, ce sera déjà de préparer finalement le déploiement de plusieurs mégawatts à l'horizon 2030.
Bon, vous reviendrez une fois que vous aurez levé les fonds. On verra combien vous avez réussi à lever. 8h28 sur BFM Business. Merci d'être venu, Eric Lhomme, directeur général et cofondateur d'Alati.